la fête. Sous le drapeau de Sony et Rupert, les rythmes battent dans notre tête. Laisse-toi emporter par cette vibe claire.
Bonjour à tous, il est 13h11, je suis Malia, bienvenue dans la nouvelle émission de Sony Vibes en ce mardi 24 mars. Sony Vibes, vous le savez, c'est l'émission des élèves de Sony Rupert et réalisée spécialement aujourd'hui en direct depuis le studio de Radio Sofia en raison du début de la semaine de la presse. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Diliams.
Merci beaucoup Malia. Et oui, bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Je me présente, je m'appelle Diliams et aujourd'hui... De quoi allons-nous parler? Nous allons aborder le sujet très central, excusez-moi, pour beaucoup d'élèves, l'orientation, notamment pour les premières et les terminales.
Alors que vous soyez élève, parent ou proche d'un étudiant en pleine réflexion, vous êtes au bon endroit.
Alors, aujourd'hui, au programme, nous avons tout d'abord écouté un micro-trottoir réalisé par moi-même, puis une présentation sur les lycées professionnels et généraux par Eliana. Ensuite, nous écouterons une interview sur la vie d'étudiante préparée par Alizé. Caroline viendra pour nous faire le récap des actus du lycée. Puis, nous retrouverons aussi Angela et Zoé pour une chronique sur le voyage à Marie-Gaillon de l'atelier Sciences Po.
Mais ce n'est pas tout, parce que par la suite, Caroline et Miliani nous parleront de la MCA, l'option Média, Culture et Ambition des Secondes. Je vous proposerai ensuite un sujet lié au stress de l'orientation par rapport aux lycéens, en compagnie de deux élèves. Et enfin, nous terminerons avec un quiz de Zoé sur l'orientation, l'interview de Cédric Centime, un journaliste venu spécialement aujourd'hui, et enfin, le billet d'humeur d'Eliana.
Eh bien, voilà un programme qui s'annonce plus qu'intéressant, mais commençons tout d'abord avec mon micro-trottoir. Merci beaucoup.
Quel métier tu souhaites faire plus tard?
Je souhaite faire étudiant.
Je suis mitigé entre deux métiers.
Et entre quels deux métiers tu es mitigé?
L'agriculture et les STAPS, enfin le sport du moins.
Je vais être vétérinaire.
Mécanicien ou un metteur à part que l'automobile.
J'ai pas vraiment de projet futur fixe, mais j'aimerais bien devenir soit biochimiste ou ingénieur en biomédical.
J'ai pas de futur métier en tête pour l'instant, mais j'aimerais bien faire quelque chose dans le cinéma ou voilà.
Alors moi, j'aimerais être avocate, spécialisée dans le droit de la famille.
Alors plus tard, j'aimerais bien être producteur d'événementiel spécialisé dans le luxe.
Tu penses où faire tes études plus tard?
Je pense faire mes études à Toulouse.
Aux États-Unis en vrai, ou à Londres?
À l'école vétérinaire de Lyon.
À Capesterre, peut-être au lycée.
Je sais pas comment le lycée s'appelle.
En France.
J'aimerais bien aller à l'Angleterre, mais sinon, je pense que je vais rester en France.
J'ai pas vraiment d'idée claire, mais je penserai à peut-être Sciences Po Paris ou une école dans le cinéma.
Alors, je commence en Guadeloupe, à Basse-Terre, au lycée Jean-Ville-Riache, pour BTS en communication, et ensuite, je pense suivre mes études en France dans une école de marketing de luxe.
Peux-tu m'expliquer, enfin, si tu sais, la différence entre le bac pro, le bac général et le bac technologique?
Le bac pro, y a des maths, il y a du bac général technologique qui sont pas. La techno, t'as un peu plus de pratique qu'en général. Le général, c'est vraiment théorique de fou, hein.
Je sais pas.
D'accord. T'as pas une petite idée?
Non.
D'accord, c'est pas grave.
J'en ai aucune idée.
Alors, je sais déjà que en bac pro professionnel, c'est tu te formes dans un métier vraiment spécifique. Alors que général, c'est plus ouvert.
Un peu varié.
Varié, oui, merci. Bon. Mais bac technologique, comme je me suis jamais vraiment intéressée à ça, je connais pas vraiment les détails.
Je pense que le bac général est vraiment académique et un peu la continuité du collège. Le bac technologique est un peu plus orienté vers la gestion d'entreprise, l'ingénierie, l'informatique et tout ça. Et le bac pro, c'est vraiment pour commencer dans le métier, à pratiquer avec les stages et y aller direct après le bac.
Comment tu t'informes pour ton orientation?
En vrai, YouTube, hein, au collège, j'ai vu ma conscience d'orientation, mais là, je suis déjà du coup.
Voilà. Je regarde sur Internet.
Dans un garage ou alors sur Internet?
Sur Internet.
Alors, pour mon orientation, je demande à mes professeurs. Et je cherche beaucoup sur Internet. J'ai déjà passé des heures et des heures à chercher, bon, juste pour les universités. Mais même jusqu'à maintenant, je ne sais pas vraiment exactement où je vais aller. Mais sinon, j'essaie de regarder, parce que comme j'ai déjà une filière en tête, j'essaie de regarder vraiment les universités où cette filière serait disponible. Mais sinon, pour chercher, je sais vraiment pas, je fais au flow.
Je demande à des personnes qui s'y connaissent sur le sujet. Je m'informe aussi et je fais quelques recherches.
Pour m'informer sur mon orientation, je peux aller sur l'UNICEF, la documentation, que ce soit au CDI ou même par internet. Voilà.
Des profs aussi?
Oui, aussi mes profs, leur poser des questions parce qu'ils ont quand même des informations qui pourraient complémenter, qui pourraient nous aider. Donc voilà, très utile.
Merci beaucoup, Dilliams, pour ce sujet essentiel qui donne la voix aux élèves. À présent, penchons-nous sur l'interview d'Eliana et les lycées professionnels et généraux en compagnie aujourd'hui de Madame Grandisson, proviseur du lycée Sony Rupert, et de Madame Chanlot, proviseur du lycée du Lamentin. On les écoute.
Merci beaucoup d'être là, mesdames.
Merci.
Excusez-moi. Maintenant, l'interview d'Eliana sur les lycées professionnels, excusez-moi, et général.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les lycées généraux et professionnels.
D'accord, merci beaucoup. Pourrais-tu me dire c'est quoi la différence, s'il te plaît, parce que je ne sais pas bien c'est quoi le sujet.
Alors les lycées professionnels, on va s'orienter directement vers la filière choisie.
D'accord.
Donc si la personne veut faire par exemple de la coiffure, il ira en lycée professionnel pour la coiffure. Un autre exemple, par exemple, pour la sécurité, il ira dans un lycée professionnel. C'est vraiment un lycée qui permet d'aller directement vers la voie où on veut continuer d'aller pour faire son métier. Et le lycée général, au contraire, on fait une ouverture beaucoup plus large et elle amène vers les plus longues études à venir.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Liana.
Merci. À toi.
Et maintenant, excusez-moi, je ne sais même plus où nous sommes, excusez-moi.
On va écouter maintenant Madame Chanlot qui va nous parler de son lycée professionnel et ensuite Madame Grandisson.
Merci beaucoup.
Je suis Pascal Chanlot, proviseur du lycée des métiers Berthet Juminaire à Lamentin. On parle souvent du lycée général et technologique, mais beaucoup moins du lycée professionnel. Alors, prenons un instant pour parler orientation et regarder ce que le lycée professionnel propose concrètement. Le lycée des métiers Berthet Juminaire est un lycée professionnel spécialisé dans les métiers du bâtiment, de l'habitat et des services associés. C'est un lycée qui forme en fait à des métiers techniques utiles et attendus sur le territoire. Ici, on apprend autrement. On acquiert des connaissances, mais surtout on se forme à un métier avec des exigences professionnelles, des gestes, des savoir-faire. En seconde professionnelle, les élèves intègrent une famille de métiers. Cela leur permet de découvrir plusieurs domaines avant de se spécialiser à partir de la classe de première. Le parcours se construit donc progressivement. Un point important, si la formation choisie ne correspond pas, rien n'est figé. Entre octobre et novembre, les élèves peuvent faire valoir le droit à l'erreur et demander une réorientation dans une autre filière en fonction des places disponibles. Il existe aussi ce qu'on appelle des passerelles, qui s'adressent aussi bien aux élèves du lycée professionnel comme ceux du lycée général et technologique. Prenons un exemple, un élève de seconde générale qui a un projet peut, après une période d'immersion et avec l'avis de l'équipe pédagogique, intégrer une première professionnelle. Au lycée Bertin-Juminaire, la formation ne se limite pas à la salle de classe, en fait. Les élèves développent des compétences en situation réelle grâce aux périodes de formation en milieu professionnel. Ces expériences en entreprise permettent de comprendre les exigences du métier, de se professionnaliser et de préparer la suite. Et les parcours sont ouverts du CAP au bac professionnel jusqu'au BTS, puis en licence professionnelle, voire au-delà. À chaque étape, il est aussi possible de faire le choix de l'apprentissage en alternant entre le lycée et l'entreprise. Le lycée professionnel, et en particulier le lycée Bertin-Juminaire, forme des jeunes qualifiés capables de s'insérer ou de poursuivre leurs études. S'il y a une chose à retenir, c'est que le lycée professionnel, ce n'est pas une autre voie, c'est surtout une autre manière de réussir.
Alors, merci beaucoup à Madame Grandisson. Madame Chandeau, excusez-moi. Maintenant, comme Madame Grandisson est avec nous en plateau, on la remercie déjà.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler de notre lycée général et technologique, Sony Rupert?
Merci beaucoup pour cette belle émission qui permet effectivement aux élèves et aux parents d'essayer d'avoir quelques outils, parce que l'orientation est un sujet assez brûlant, assez compliqué, et c'est vrai que demander très tôt à un élève qu'est-ce qu'il veut faire, ça peut être un peu problématique. Au lycée Sony Rupert, nous accueillons des élèves de seconde, première et terminale, et à la rentrée prochaine, nous ouvrons un BTS qui fait suite aux élèves qui auront la section STI 2D ou en bac pro à peu près l'équivalent. Donc c'est un BTS assistant technique d'ingénieur accessible à partir de la rentrée prochaine. Donc les élèves de seconde, première et terminale au lycée, environ 490 élèves aujourd'hui. Des classes de seconde, et à la fin de la classe de seconde, donc en ce moment, les élèves doivent faire des choix sur leur orientation future. Alors, deux choix possibles: soit on continue en lycée général et technologique, donc à Sony Rupert, ou soit on se, entre guillemets, on pourrait dire, on se réoriente. Alors, c'est quoi? C'est on choisit d'aller vers la voie professionnelle ou alors vers la voie technologique. Il faut savoir que à Sony Rupert, nous avons la préparation bac général et la préparation bac technologique STMG et STI 2D. Donc, les élèves en fin de seconde, ils vont faire des choix d'orientation. Donc, ils choisissent de continuer en filière générale ou ils choisissent d'aller en filière professionnelle ou technologique. Ensuite, dans un mois et demi, ils auront une réponse en fonction de leur choix. S'ils ont choisi la filière générale, ben, ils seront orientés. S'ils ont choisi la filière technologique ou professionnelle, alors là, quelquefois, les places sont chères, parce qu'il est quelque part plus difficile d'aller en série professionnelle que d'aller en série générale, parce qu'en série professionnelle, il y a un certain nombre de places disponibles. Alors, quelquefois, on se retrouve avec des élèves qui ne sont pas affectés, et c'est là la difficulté pour ces élèves-là. Ils ne sont pas affectés dans la filière qu'ils voudraient, donc ils se retrouvent à poursuivre en série générale, et quelquefois, ils n'ont pas envie d'aller en filière générale parce que ce n'est pas leur souhait premier. Ensuite, pour les élèves de première, ils ont donc à faire des choix en fonction de leur spécialité. Il faut savoir qu'au lycée Sony Rupert, les élèves, ils ont 11 spécialités. Et comme j'ai peur d'en oublier une, donc je ne vais pas toutes les lister. Donc il y a 11 spécialités, bon, je vais quand même m'y risquer. Hein. Donc spécialité anglais, spécialité espagnole, spécialité audiovisuelle, spécialité maths, sciences physiques, SVT, HGSP, HLP,
SES
et NSI et SI. Voilà, merci, nous avons gagné. Donc, ces élèves de seconde donc, vont choisir trois spécialités parmi les 11 que je viens de citer. Et quand, en fin de première, ils vont devoir lâcher une spécialité et choisir deux spécialités pour la classe de première. Et en classe de première, ils ont donc à faire un choix de parcours, de poursuite d'études à travers l'application Parcoursup et faire des choix d'orientation. Et là aussi, ça devient compliqué parce que quand on a 17-18 ans, on a peut-être une idée de ce qu'on a envie de faire, mais on n'a pas vraiment de métier précis. Et il faudra faire des vœux qui vont orienter les élèves vers une filière, vers un type d'activité. Mais là aussi, comme disait Madame Chanlot dans son interview, rien n'est jamais figé. On a toujours le droit à l'erreur et on peut revenir sur une décision, toujours changer sur une décision. Et moi, je dis une chose importante. Souvent, on pense que revenir sur un choix d'orientation, ça peut être quelque chose...
un échec,
ça peut être un échec, mais ce n'est pas un échec. Parce que je dis toujours, quand on a 40 ans, on ne vous pose pas la question à quel âge vous avez eu votre bac. On vous demande quelles sont vos compétences. Donc, c'est important... Même si on a fait une année de plus, c'est pas ça le problème. La difficulté, c'est de choisir sa voie. Et puis une fois qu'on a choisi sa voie, ben, on y est, on est bien, peu importe son âge.
Moi, c'est ce qui manquait aussi de notre lycée. Il n'y a pas d'échec difficile, il n'y a pas de réussite. Non, il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Voilà. Excusez-moi.
Mais les stages aussi, je suppose qu'ils aident beaucoup parce qu'en lycée professionnel, je sais qu'ils ont de longues périodes de stage par rapport au métier qu'ils veulent faire. Mais est-ce qu'au lycée général, on a une aide, on a une possibilité de pouvoir faire une insertion quand même dans le métier qu'on voudrait faire dans la voie générale? Parce que nous, c'est beaucoup plus large que les lycées professionnels où après le bac, on peut directement aller dans une entreprise.
Alors, la différence entre un lycée général et un lycée professionnel, c'est justement cette partie professionnelle. En lycée général, les élèves sont dédiés pour faire de longues études. Donc, il n'y a pas cette partie professionnelle. Sauf pour la classe de seconde, les élèves, ils ont 15 jours de stage d'observation. Mais ce ne sont pas des immersions où, comme les élèves de seconde professionnelle, de première et terminale professionnelle, ils vont être dans le métier qu'ils ont choisi pendant avoir une période de stage de 4, 6, 8 semaines pour réaliser une tâche précise. En lycée général, on n'a pas ça. Seulement, je dis, les élèves, nous ne pouvons pas, le lycée général ne peut pas faire de convention avec une entreprise. Mais un élève qui a envie qui s'intéresse à un métier, qui a envie d'avoir une immersion, c'est sa responsabilité avec sa famille, avec le chef d'entreprise, d'aller vers l'entreprise.
D'accord, merci beaucoup, Madame Grandisson. Merci à Madame Chanlot aussi. On passe à Malia.
Merci Liana, merci Madame Grandisson. Encore une fois, merci Madame Chanlot pour ces éclairages précieux qui, je l'espère, auront aidé certains parents ou proches d'étudiants. Et maintenant, on va se laisser avec une courte pause musicale avec la musique Couli Couli de Aknos, Kima et Magistral.
Wow. Ta copine elle t'attend, mais elle veut d'un garçon plus épatant. Hey, je veux finir dans son lit, mais pas finir dans son testament. Quel autre qui faut qu'on colle la petite, moi c'est en attaquant. Hey, toujours kabak, c'est pas kabak, ça suit pour partir lentement. Hey, she love the batas indien, she want the coolie coolie. She want the tori tori, my back is fully fully. She want the batas indien, she want the coolie coolie. She want the tori tori, my back is fully fully. Up down, sit down, up down, sit down. Les enlacés, open that. Après ça sous bambou clap, hey. Up down, sit down, up down, sit down. Les enlacés, open that. Après ça sous bambou clap. Ce soir baby, c'est how you ready. Payant pour les gars, gâchu pour les filles. Ce soir baby, ramène tes copines. C'est un peu normal si ça finit au lit. Pourquoi des fois j'étais mimi, mimi. C'est moi ton mousson, c'est moi ton win. C'est un backshot sous les yeux. T'as le canon qui frotte, ça me fait des guillis. She love the batas indien. She want the coolie coolie. She want that tori
She want the bata zenzen. She wants the coolie coolie. She want the tolly tolly. My back is fully fully. Je vis Samuel comme Oshi. Obligé voyer plein emoji. Carré violet, nouveau max. En bas de ch'la chèque et t'es les max. Bébé, je veux de la socosse. Ma magie, ça concosse. Ce soir, pas de bat douce. Elle veut de son douce, douce. She love the bata zenzen. She want the coolie coolie. She want the tolly tolly. My bag is fully fully. She want the bata zenzen. She want the coolie coolie. She want the tolly tolly. My bag is fully fully.
Pourquoi à chaque fois j'étais mimi, c'est moi ton ouçon, c'est moi ton mini. T'aimes back shot sous les yeux. T'es le canon qui frotte, ça me fait des
gants. Les sonnes pour qu'on pète. Nous qu'à descendre la bombe qu'on pète.
Radio Sofa et Altitude, c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sofa et Altitude sur la 88.5 et 101 FM.
Coucou tout le monde. Les jeunes du lycée Sony Rupert présentent Sony Vibes. Sony Vibes. Sony Vibes, une émission unique réalisée par les talents du lycée. Vibrations positives, bonne humeur, débats captivants et découvertes enrichissantes, c'est dans Sony Vibes.
Sony Vibes. Sony Vibes.
Sur Radio Sofa et Altitude, chaque mardi de 13h à 14h, sur 88.5 et 101 FM, ainsi qu'en ligne. Sony Vibes, les jeunes prennent le contrôle de la FM. Sony Vibes, l'énergie des jeunes sur Radio Sofa et Altitude. Action portée par la Cité éducative.
Il est 13h32, vous venez d'écouter Couli Couli de Aknoz. Mais maintenant, laissons place à Alizée en compagnie d'une ancienne élève qui va nous partager son expérience. On les écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir une invitée très spéciale. Lauriana, ancienne élève du lycée et actuellement étudiante en première année post-bac. L'occasion pour nous de découvrir comment elle vit cette nouvelle étape après le lycée, ses choix, ses réussites, mais aussi les petits défis et surprises du quotidien. Alors, restez avec nous, ça va être très intéressant. Alors, Lauriana, j'aurais comme première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussée à choisir cette formation après le bac ?
Je te remercie, Alizée, pour cette question. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée à choisir cette formation après le bac ? Pour être honnête, depuis le collège, j'avais déjà cette petite idée donc de faire du droit. Et au final, c'est resté et ça s'est donc endurci au fil des années, et notamment au lycée, quand il a fallu choisir nos spécialités pour le bac. Et puis après, en terminale, c'est assez solidifié. Donc voilà, je fais des études de droit à Fouillol et j'aime bien ce que je fais.
Très bien. Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise en arrivant dans l'enseignement supérieur ?
Ce qui m'a le plus surpris en arrivant dans l'enseignement supérieur, je dirais que c'est la capacité d'adaptation qu'il faut acquérir assez rapidement pour être dans le bon train, entre guillemets, pour s'en sortir. Donc voilà, ce qui m'a le plus surpris, ça m'a... Enfin, c'est un peu bouleversant parce que... On te change de ta routine, entre guillemets, que tu avais au lycée, de tes habitudes, de ta façon, de ta méthode de travail. Donc tu dois acquérir une nouvelle méthode de travail rapidement pour pas être perdu et largué. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus surpris au début de l'année.
D'accord. Et quelles sont les plus grandes différences donc, que tu as remarquées entre le lycée et les études post-bac ?
Les plus grandes différences entre le lycée et les études, je dirais que c'est l'accompagnement. Car au lycée, on est beaucoup plus accompagné qu'à l'université. Après, je dirais que c'est logique, puisque à l'université, vous êtes considérés comme des adultes. Enfin, vous êtes des adultes, mais voilà. Je pense que c'est la plus grande différence que j'ai à relever, en tout cas.
D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés depuis le début de l'année ? Et si oui, comment tu as réussi à les gérer ?
Merci pour cette question, Alizy. Donc, oui, j'ai rencontré des difficultés au début de l'année, donc notamment l'adaptation. J'ai dû m'adapter au début de l'année rapidement et efficacement. Et ça, c'est vraiment pas facile pour tout le monde et ça peut être compliqué, surtout si vous êtes changé complètement d'environnement. Parce que moi, personnellement, j'ai déménagé. Donc, entre ça, m'adapter à la vie dans la nouvelle ville, comprendre les systèmes patati patata, et puis m'adapter à une nouvelle méthode de travail, parce qu'au lycée, la méthode de travail n'est vraiment pas la même qu'à l'université. Enfin, je dirais qu'au lycée, la méthode, la charge de travail, elle est minime comparée à l'université. Donc, du coup, il y a quand même un certain décalage qu'on doit relever assez rapidement. Et puis, j'ai appris à les gérer. Donc, on est déjà au deuxième semestre, heureusement. Donc, j'ai appris à les gérer. Et voilà. Mais j'estime quand même que les lycéens ont besoin d'entendre que même si au début de l'année, enfin, au premier semestre, ils font des erreurs, enfin, c'est normal. C'est vraiment normal de faire des erreurs parce que vous apprenez. Et ça va pas définir tout de suite votre année ou bien qui vous êtes. C'est vraiment... vaut mieux faire des erreurs au début que à la fin, parce que vous pouvez vous rattraper tout de suite.
Très bien. Et pour conclure, quel conseil donnerais-tu à un lycéen qui hésite encore sur son orientation ?
Si j'avais un conseil à donner à un lycéen qui hésitait encore sur son orientation, je dirais que l'hésitation en terminale, c'est déjà une preuve de recherche. Parce que en terminale, j'estime qu'on a, enfin, on a 17-18 ans, peut-être 19. On n'est pas encore... Enfin, on est petit. On ne peut pas encore savoir précisément ce qu'on veut faire plus tard. Et puis même, la réorientation, c'est pas une fatalité. Recommencer une année, c'est pas une fatalité. Recommencer une année dans une autre branche, c'est pas une fatalité. Au contraire, je trouve que c'est une preuve. C'est s'affirmer, c'est montrer que ben, ce que j'ai envie de faire, c'est ça et pas ça. Et pas suivre une branche alors qu'on ne l'aime pas parce que on a déjà commencé l'année. Enfin, ça ne veut rien dire. Donc, tous les lycéens qui hésitent encore sur leur orientation, c'est... Enfin, j'ai envie de dire c'est normal. La plupart des lycéens, ils hésitent. Moi, j'ai hésité. Et encore, j'hésite encore tous les jours. Donc, franchement, ça ne veut rien dire. La réorientation... C'est pas une fatalité.
Intervention Lauriana et pour le partage de ton expérience. J'espère que cela inspirera plusieurs jeunes et les aidera à mieux comprendre ce cheminement vers la vie d'étudiant. Je te souhaite alors une belle fin d'après-midi, mais également à nos auditeurs, et moi je vous laisse ici.
Merci beaucoup Alizé et merci beaucoup Lauriana pour ce témoignage très, très enrichissant. Des réponses essentielles, je l'espère, à de nombreux questionnements probablement. On se retrouvera après une courte pause musicale avec That's My Girl de Vibes Harmony.
Radio Sophie Altitude, c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sophie Altitude sur la 88.5 et 101 FM.
Self, it's flawless, body aching now from head to toe.
d'études, c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sofaï Altitude sur la 88.5 et 101 FM.
Alors, c'était Dice Mayor de Fifth, excusez-moi, Harmony. Il est 13h43. J'espère que vous aurez plu cette musique. Personnellement, moi, j'ai beaucoup dansé dessus. Mais revenons aux choses sérieuses. Avec Caroline qui va nous présenter le récap des actus du lycée, on l'écoute tout de suite.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, ça va, et vous?
Ça va bien, merci.
Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour ces actus? Eh bien, on va commencer par les événements qui se sont passés avant les vacances du carnaval, le mercredi 4 février. Il y a eu le rallye de mathématiques.
Comment ça s'est passé pour nos camarades?
Ben, c'était un petit moment éprouvant parce que nos chers élèves ont dû travailler leur ménage. Mais juste après l'effort, il y a eu un réconfort. Puis ils ont eu droit à une animation, et notamment de carnaval avec le groupe Wakashire Band, qui a été encadré et réalisé par la MDL du lycée.
Heureusement qu'il y a eu cette pause, mais il me semble qu'il y a eu des départs durant les vacances, non?
Oui, c'est vrai. Du 7 au 15 février, il y a eu le voyage scolaire à Bruxelles. Il y a eu plusieurs voyages hein, cette année, dont celui à Bruxelles pour les premières et les terminales. Et d'ailleurs, j'ai interrogé Alizé sur son impression. Et en fait, c'est une élève qui a pu participer à celui-ci.
Alors donc, pendant notre voyage en Belgique, on a eu l'occasion de visiter donc plusieurs institutions européennes. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant en fait de découvrir concrètement des lieux dont on entend souvent parler, mais aussi de mieux comprendre comment fonctionne l'Union européenne et où certaines décisions sont prises. Donc pour moi, ce voyage ne s'est pas limité qu'à ça en fait, puisque ça nous a aussi permis de découvrir un nouveau pays, une autre manière de vivre au quotidien. On a aussi passé du temps donc dans un lycée belge où on était vraiment en immersion donc avec les élèves. On a assisté à des cours avec eux et partagé des moments donc de leur vie scolaire. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir en fait les différences avec notre système scolaire et d'échanger avec des élèves de notre pays. Voilà. Donc, en résumé, je dirais que ce voyage était très enrichissant, autant pour les découvertes qu'on a faites, que ce soit par les institutions, voilà, mais les rencontres aussi qu'on a faites.
Alizé me range à vous, j'aurais trouvé m'être là. Mais bon, j'imagine qu'il y a eu un retour à la réalité assez brutal pour les élèves, non?
Eh bien oui, et ce retour a été très chargé pour nos élèves parce que juste après les vacances de carnaval, le mardi 24 février, il y a eu l'événement Ciné Roulé. Mais ça, c'était une activité assez calme puisqu'on a pu découvrir le cinéma et les montages à l'ancienne. Les élèves ont eu l'occasion de découvrir notamment une table de montage et observer le processus où on changeait les images et les musiques. Puis ils ont eu droit à un mini cours d'histoire sur des œuvres d'art et ils ont pu même faire des puzzles avec plusieurs choses très jolies à voir.
Je vais mettre là, franchement.
Mais à part ça, quel autre événement il y a eu?
Alors, le lundi 2 et le mardi 3 mars, les élèves de seconde et de première ont pu visionner une pièce de théâtre par l'association Renard. Un comédien a représenté seul plusieurs personnages dans l'humour et l'interaction avec les spectateurs. La pièce s'intitulait « Bonjour, on est un tsunami ». Et en fait, ça racontait la vie de quatre ados qui ont grandi, qui s'adaptaient et qui s'accrochaient malgré les épreuves et le passage vers l'adulte.
Personnellement, j'étais là. C'était là, Dylan, ou pas?
J'étais là aussi.
Incroyable. C'était une pièce fabuleuse, émouvante, magnifique. Mais avec tous ces événements, on s'est approché d'une journée importante, n'est-ce pas?
Oui, elle a une très, très grande importance. Et c'était la Journée internationale des droits des femmes. Le mardi 3 mars, on a célébré la Journée internationale des droits des femmes en avance. Et tout le monde devait s'habiller en violet et en blanc. Et en fait, après, on a filmé une petite vidéo avec des élèves qui saluaient la caméra.
C'est vrai que c'est un événement d'une grande importance, il ne faut pas l'oublier.
Oui, mais les gens n'ont pas fait que ça pour cette journée, puisque le vendredi 6 mars, les membres du CVL et leurs invités, parce qu'ils ont pu inviter des élèves de leur choix, ils sont partis pendant une matinée dans le cadre des droits des femmes. Et on va d'ailleurs écouter le témoignage de Maessa, qui a été invitée par l'un des membres du CVL.
Personnellement, j'ai bien aimé la journée. Il y a eu beaucoup de femmes inspirantes avec des métiers qui étaient assez atypiques. On a pu voir beaucoup de choses qu'on ne voyait pas souvent. C'était une journée qui était vraiment centrée sur l'égalité et le fait de chercher toujours mieux. Et on a pu voir aussi des femmes qui venaient, enfin, des femmes du passé qui étaient inspirantes aussi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une journée qui te redonnait de la force.
Je suis contente qu'il y ait eu ces pensées pour les femmes durant cette journée. Très important. Mais rapprochons-nous d'événements tout près de cette date. Qu'a-t-il eu d'autre ?
Alors, il y a un événement qui se passe toujours, mais malheureusement, il va se terminer bientôt. Durant tous les lundis du mois, il y a eu des ventes, notamment de crêpes, de cookies et de sucreries.
Ça me moquait.
Oui, c'est vrai, moi aussi. En fait, les élèves ont eu l'occasion de se faire plaisir en achetant une douceur ou plusieurs, grâce à quelques pièces d'euros. Et en fait, ces achats permettront ainsi à la section euro-anglais de partir dans un voyage à Londres sur le thème d'Harry Potter. Ouh. Intéressant, non ?
Ok, oui, Harry Potter. D'accord. Oui, chaque élève a pu contribuer tout en s'amusant, bien évidemment. Mais il y a une journée que j'ai particulièrement appréciée. Tu peux nous en parler, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, le mercredi 18 mars, il y a eu la journée chic et classe. Les lycéens ont dû se vêtir, excusez-moi, de leur plus belle tenue. Mais il y avait cours quand même, malheureusement. Oh. C'était plutôt beau de voir quand même chacun sur son 31. Et il y a même eu la présentation des participants au concours Miss et Mister.
Alors là, quel calendrier rempli. On a eu pour les mois de février et mars en vrai, ça veut dire. On avait tout.
Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'événements joyeux et certains ont demandé une très grande attention. Mais on peut dire qu'il y a eu quand même un équilibre entre le travail et l'amusement.
Eh bien, merci Caroline pour cette actu du lycée. On t'attend avec impatience pour la prochaine fois.
Merci beaucoup Caroline. Maintenant nous allons accueillir en plus Angela qui nous a préparé avec Miliani un résumé du voyage à Marie-Galante de l'atelier Sciences Po. De notre liste d'ailleurs qui a concerné des premières et des terminales en janvier dernier. Écoutons-les.
Donc non, c'est pas Mélanie, mais c'est moi, Zoé.
Excuse-moi, Zoé.
Et aujourd'hui, je suis avec Angela et on va vous parler de notre voyage, enfin, de leur voyage à Marie-Galante que les élèves de Sciences Po ont pu faire en janvier. Et oui, ils sont partis 3 jours à la visite de Marie-Galante avec les ateliers Sciences Po de première et de terminale du lycée. Mais c'est quoi l'atelier Sciences Po ?
Alors, l'atelier Sciences Po, c'est un atelier au lycée pour les élèves intéressés par la politique, les actualités et tout ce qui y ressemble. Et c'est aussi un biais pour passer le concours pour entrer à l'université, enfin la grande école de Sciences Po. Et l'atelier de première est dirigé par Madame Lennos. Et l'atelier de terminale est géré par Madame Placé qui a d'ailleurs organisé le voyage. Il y a aussi l'atelier MCA pour les élèves de seconde qu'on écoutera après ce reportage. Mais dis-moi Zoé, quel était l'objectif de ce voyage ?
Ah oui, eh bien l'objectif est de faire un lianage avec les élèves des ateliers Sciences Po de Sonia Rupert et de Marie-Galante, mais aussi d'apprendre à se connaître entre eux et à connaître un peu mieux l'histoire de notre île. Alors on m'a raconté que le premier jour, tout le monde était excité par le départ. Après s'être réveillé bientôt, ils ont pris le bateau direction Grand-Bourg. Une fois arrivés, les Sciences Pistes ont été accueillis par les élèves et ils ont été mangés à la cantine avec les Marie-Galantais. Ensuite, ils ont visité Grand-Bourg l'après-midi et fait une battle sur ce qu'est Sciences Po. Suite à cette battle endiablée, ils sont allés visiter l'usine de sirop de batterie Moisin. Ça avait l'air hyper intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Angela ?
J'ai vraiment adoré, surtout l'usine de sirop batterie. J'ai trouvé le sirop très sucré et délicieux. J'ai beaucoup aimé.
Et pour finir cette première journée, ils ont fait un atelier de sophrologie sur la plage de Grand-Bourg au coucher du soleil. C'est vraiment un moyen d'apprendre à se connaître plus et je sais que ce n'était pas si facile que ça. Le samedi matin, c'était reparti pour une séance de sophrologie. Les élèves de Sciences Po ont été amenés sur la plage du pont Galbas à Grandbourg pour une séance plus longue cette fois-ci. Grâce à la voix et aux instructions de Cindy, ils ont été guidés vers un état d'esprit calme et serein. Parfait pour ce début de journée. Écoutons son interview.
Alors, qu'as-tu pensé de l'atelier de sophrologie ?
Alors, j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois qu'on faisait un cours de sociologie. Au début, je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était. Je pensais qu'on allait crier à la plage. Voilà. C'était faux. On a appris à se comprendre, à savoir qu'est-ce que c'était le stress, à savoir comment gérer son stress et comprendre son corps pour les examens, le stress ou en général.
J'ai trouvé ça cool. Franchement, la façon dont on pouvait se concentrer sur nous-mêmes et écouter notre corps, je trouvais ça bien.
Nous sommes ensuite montés dans l'autobus pour aller à Grandbourg dans l'objectif de réaliser une visite guidée de la fameuse distillerie Biel. C'est l'occasion de comprendre le processus de transformation d'une culture agricole.
Bonjour, alors je suis Axel Moutou-Carpin, je suis responsable export, donc commercial. Je m'occupe aussi des événements et puis des visites d'accueillir des clients à la distillerie. Alors la canne arrive à la distillerie, elle va être broyée, on va récupérer un jus qu'on appelle le vesou. Ce vesou sera ensuite mis à fermenter 48 heures avec de la levure. Ensuite, on va obtenir un vin à 5 degrés. Ce vin part en colonne à distiller. Au bout de la distillation, on a un rhum qui sera à 75 degrés, qui va ensuite être réduit. Et selon, soit consommé en rhum blanc ou consommé en rhum vieux. Donc le rhum blanc sera mis à vieillir dans des fûts. Et on aura nos rhums blancs, nos rhums ambrés et nos rhums vieux.
Ouais, ça a l'air vraiment top. Vas-y, Angela.
Pour la suite, en début d'après-midi, nous sommes tous allés chez les amis de l'Indigo pour réaliser des customisations de vêtements avec de la poudre d'indigo. Une fois sur place, nous avons eu la chance de rencontrer Pierre Moudard qui nous a fait découvrir le processus de fabrication. Écoutons son interview.
Moi, c'est Pierre Moudard. Et donc, l'idée, c'est de faire découvrir une plante qui fait du bleu. Et cette plante, en fait, a été dans l'histoire de Marie-Galante, la Guadeloupe, l'archipel la Guadeloupe, très, très, très importante.
Et donc, nous, this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
Pour savoir comment on fait du bleu. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui a été un peu perdue. Et donc l'idée, c'est grâce à la teinture que nous faisons ensemble, de pouvoir remettre au bout du jour ce bleu de Marie-Galante et de la Guadeloupe.
En tout cas, ça avait l'air vraiment chouette. J'ai pu voir les t-shirts, j'ai adoré. Et après, vous avez continué la visite, non ?
Eh oui. En remontant dans le bus, nous sommes allés visiter les vestiges de l'habitation Roussel, Trianon et la Maroconche. Nous avons particulièrement apprécié et visité les vestiges. Marie-Galante est un endroit rempli de culture et de bœufs qu'on a eu le plaisir de découvrir.
Ah ça oui, il y en a plein. Enfin, en rentrant, ils ont passé un merveilleux moment à la plage pour profiter du coucher de soleil et pour se baigner. Une merveilleuse fin de journée. Puis, ils sont rentrés au lycée où ils ont pu dîner et ils ont fait un karaoké avec tout le monde. Je vous laisse avec une interview de Mathis, un étudiant en première année de Sciences Po et mentor pour le concours.
Est-ce que tu peux nous dire ce que le voyage t'a apporté ?
Alors, ça m'a apporté une nouvelle connaissance de moi-même, une nouvelle connaissance sur les gens, sur Marie-Galante, au niveau historique et culturel. Voilà. Même si je connaissais déjà Marie-Galante, mais il y a plein de choses que j'ai découvert, comme les habitations qu'on a vues.
Bon, franchement, ce voyage, j'ai trouvé qu'il était super cool. J'aurais aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Mais tout ce qu'on a fait de vendredi jusqu'à aujourd'hui dimanche, j'ai trouvé ça trop bien.
Là, vous venez d'écouter une interview de Maïra et Mathias sur leur impression du voyage. À ton tour, Zoé.
Et oui, malheureusement, même les bonnes choses ont une fin. Direction le château Murat pour une visite libre, un lieu rempli d'une histoire sombre, mais à connaître. On ne dirait pas vraiment qu'elle porte une histoire aussi lourde à première vue. Donc on m'a dit que ça a été un choc, mais c'était aussi très enrichissant.
À la suite de cette visite, nous avons repris le bus direction la plage de Vieux-Fort. Ce fut l'occasion de se détendre et de profiter du cadre paradisiaque et de l'eau turquoise pour se baigner avant de partir à Saint-Louis pour le déjeuner. Quoi de mieux qu'un restaurant pour finir ce voyage en beauté ?
Après avoir bien digéré, il était temps de rejoindre le port de Grand-Bourg pour embarquer à bord du ferry et faire nos au revoir à Marie-Galante.
Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et nous vous laissons pour une dernière interview de l'impression des élèves. Et non, finalement, nous n'avons pas cette interview, donc on va continuer.
Eh bien, ce n'est pas grave, merci quand même à toutes les deux, car cela semble avoir été un voyage qui vous a tant apporté vis-à-vis des activités. Mais à présent, nous allons passer et écouter Miliani et Caroline à propos de la MCA, comme je vous l'ai dit, l'option Média, Culture et Ambiance. Une option proposée aux secondes, un sujet dont je suis sûre nous apportera aussi beaucoup. Bien, maintenant, on va vous écouter sur ce sujet de la MCA. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est bien l'option Média, Culture et Ambition des secondes. On vous écoute, merci beaucoup.
Bonjour Malia, ça va bien? Tu vas bien?
Moi, c'est Miliani, oui, ça va.
Vas-y, nous y compte. Ça va, tu vas bien, Miliani?
Oui, je vais bien.
D'accord. C'est responsable, quand même.
Rebonjour. Oui, aujourd'hui, on va vous parler de l'option MCA, Média, Culture et Ambition. En fait, c'est un atelier pour les élèves de seconde qui font partie de la préparation au concours de Sciences Po à Paris. Notre établissement participe aussi au programme CEP, Convention d'éducation prioritaire, qui est proposé aux élèves de première et de terminale. Ce dispositif permet à des élèves qui ont moins accès directement à la renommée et à la connaissance de certains établissements et préparation pour y accéder, de s'ouvrir à un concours d'excellence et de viser des études ambitieuses. L'atelier MCA existe depuis plusieurs années. Avant, il s'appelait Atelier Premier Campus, mais le nom a changé il y a environ. Ce changement s'explique parce que les élèves de seconde ne peuvent pas encore passer le concours. Donc cette année sert surtout de préparation.
Pour pouvoir se présenter plus tard, il faut être lycéen, s'inscrire sur Sciences Po, sur Parcoursup et avoir suivi les années de préparation du programme. Les élèves ont alors un accès privilégié au concours d'entrée à Sciences Po Paris. Le but de MCA, c'est aussi de rendre le parcours moins impressionnant et de montrer que ces études sont accessibles. Chaque année, il y a différentes activités, sorties culturelles, rencontres avec des intervenants et parfois des partenariats avec d'autres établissements. Tout ça permet de développer la culture générale, l'aisance à l'oral, la confiance en soi et de s'épanouir. Et surtout, tout se fait dans une bonne ambiance avec un esprit d'entraide et chacun peut progresser. Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci beaucoup Miliani et Caroline. Chers auditeurs, on se retrouve tout de suite, mais avant, nous allons vous laisser écouter Fashion Designer de Théodora.
Thank you.
c'est désormais deux fréquences, deux fois plus d'auditeurs, une couverture deux fois plus large. Écoutez Radio Sofaï Altitude sur la 88.5 et 101 FM.
Coucou tout le monde. Les jeunes du lycée Sony Rupert présentent Sony Vibes. Sony Vibes, une émission unique réalisée par les talents du lycée. Vibrations positives, bonne humeur, débats captivants et découvertes enrichissantes, c'est dans Sony Vibes. Sony Vibes. Sony Vibes sur Radio Sofaï Altitude.
Alors, il est 14h04, c'était Fashion Designer de Théodora. Merci beaucoup à Miliani et Caroline. Mais, Malia.
Dis-moi.
Donc, moi, c'est un truc pour nous, rien que t'as préparé, non?
En effet, Dilliams, aujourd'hui, je vais vous parler de Parcoursup et du stress de celui-ci sur les élèves. Et on accueille. Toi, déjà pour commencer. Et merci Zoé beaucoup. Qui revient pour des petites questions que je leur ai préparées par la suite. Mais, parler d'orientation au lycée aujourd'hui. Sachez que c'est parler de stress. Un stress qui va être diffus, constant, qui va structurer les élèves, car chaque année, des centaines de milliers de lycéens se retrouvent confrontés à un moment décisif. Choisir leur avenir. En 2025, ils étaient à peu près 980 000 candidats sur Parcoursup, un chiffre record. Mais cette dernière massification de l'accès à l'enseignement supérieur, et ben derrière elle, il y a une réalité qui s'impose, celle d'une pression psychologique qui est de plus en plus forte. Car selon des données officielles, 84% des lycéens jugent la procédure stressante. Un chiffre massif, presque alarmant. Mais pourquoi un tel niveau d'anxiété, d'après vous? Eh bien, d'abord, Parcoursup propose sur une logique de sélection implicite. Les élèves doivent formuler jusqu'à 10 vœux, souvent stratégiques, parfois par défaut, et ils apprennent très tôt à optimiser leur avenir, choisir des formations dites accessibles, éviter celles jugées trop sélectives. Et résultat? Plus d'un lycéen sur deux s'auto-censure dans ses choix. Ce phénomène traduit une transformation profonde de l'école, car on ne choisit plus seulement en fonction de ses envies, mais en fonction de ses chances. Ensuite, évidemment, il y a l'incertitude. Pendant plusieurs mois, les élèves vivent dans l'attente, les réponses arrivent progressivement, parfois tardivement. Certains restent en attente pendant des semaines, voire des mois. Cette temporalité, vous l'imaginez bien, crée ce que des chercheurs ont appelé une anxiété prolongée liée à l'absence de contrôle. Et comme le disent eux-mêmes les lycéens, Parcoursup est perçu parfois comme un marathon où on n'est jamais vraiment sûr de rien. Mais ce stress ne vient pas seulement de la plateforme, car il est aussi social. Les inégalités jouent un rôle majeur. Tous les élèves, vous le savez, n'ont pas le même accès à l'information, aux conseils ou encore aux stratégies d'orientation. Certains bénéficient d'un accompagnement familial fort, c'est vrai, mais d'autres avancent seuls. Et cela influence directement leurs choix, mais aussi leurs chances. Ensuite, il y a la pression invisible, celle des parents, des professeurs, des notes et du regard des autres. L'orientation devient alors bien plus qu'un choix scolaire. Elle devient une épreuve identitaire. Les élèves se posent des questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Où est-ce que j'ai ma place? Autant de questions qui les traversent souvent à 17 ou 18 ans. Et pourtant, malgré cette pression, il faut se rappeler que la majorité des élèves obtiennent une proposition d'admission, car en 2025, ils étaient plus de 9 lycéens sur 10. Ne vous inquiétez pas. Alors, tout de même, faut-il repenser Parcoursup, ou plutôt repenser notre manière d'accompagner les jeunes? Car au fond, la question n'est peut-être pas seulement celle du système, mais celle du sens que l'on donne à l'orientation. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer à une petite série de questions sur ce sujet avec Zoé et Dilliams. Comment allez-vous? Vous êtes prêts?
On est prêts, ensemble.
On est prêts.
Alors, Zoé Dilliams, Zoé, non, plutôt Dilliams, excuse-moi. Qu'est-ce que tu penses, enfin plutôt, est-ce que tu penses déjà à Parcoursup ou à ton orientation? Tu es en première.
Oui, en première. Déjà, pour moi, Parcoursup, c'est mon orientation, excusez-moi. Donc, j'y pense tout le temps, j'y pense, parce que je pense avoir un futur métier plus tard. Donc, j'y pense tout le temps, sans te mentir, j'y pense tout le temps.
D'accord. Et est-ce que toi, en tant que lycéen, en classe de première, est-ce que tu te sens bien accompagné par le lycée vis-à-vis de cette orientation?
Oui, franchement, oui. Par les profs, l'assistance sociale, même l'infirmière, oui, oui. Les CPE, les surveillants, même des fois, oui.
Je pense que pour autant, il faudrait peut-être changer quelque chose ou non? C'est bon.
Je ne pense pas qu'il faudrait changer quelque chose, mais améliorer quelque chose, je le pense, oui, sincèrement.
Comme
Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut améliorer quelque chose. Dis comme ça, je ne sais pas.
Toujours améliorer. Zoé, est-ce que tu considérais avoir fait la majorité de tes choix, par exemple, par envie ou plutôt par sécurité?
Alors, pour moi, c'est plus par sécurité. En général, même si j'ai fait des vœux peut-être par envie. Par exemple, moi, je veux faire des relations internationales, de la science politique, etc. Donc, franchement, la plupart de mes vœux, c'est des choix par envie. Mais j'ai toujours des vœux de sécurité. On m'a appris, surtout en terminale, qu'il fallait que je fasse des vœux pour assurer... au cas où si je n'avais aucun de mes vœux acceptés, donc voilà, j'en ai mis un peu partout.
Et du coup là, Parcoursup récemment, on vient de finir avec le fait de choisir nos vœux. Mm-hmm. Mais est-ce que pour autant tu as bien compris les critères de sélection des formations avant de mettre tes vœux?
Alors moi j'ai l'avantage de participer seulement dans des licences, mais je sais que j'ai plein d'amis qui ont eu beaucoup de mal à comprendre comment on était sélectionné, par exemple les gens qui veulent rentrer en école d'architecture, etc. Je sais que c'est plus compliqué, il faut faire des sous-vœux, il y a des questions de tests, etc. Mais c'est plus ou moins clair, on nous a bien expliqué avec plusieurs réunions dans l'année, donc franchement, ça va, j'ai compris.
Je vais vous poser une petite question à vous deux. Qu'est-ce que, d'après vous, qui vous inquiète le plus? Faire le mauvais choix, ne pas être accepté, entre ces deux choses?
Pour moi, ce serait faire le mauvais choix, j'avance.
Oui. Mais je me permets, on a vu au terme de plusieurs interviews juste avant que faire le mauvais choix, c'était pas une fatalité pourtant.
Certes, c'est vrai, mais si j'ai fait le mauvais choix, ce ne sera pas pour autant ce que je voulais faire, au final. Donc pour moi, ce serait faire le mauvais choix.
Et toi, Zoé, faire le mauvais choix ou ne pas être accepté?
Eh ben, moi, c'est un peu des deux, comme je pense beaucoup de terminales, mais je pense que ne pas être accepté, c'est plus quelque chose qui m'inquiète, parce que je sais que... j'ai les capacités pour entrer dans les formations qui m'intéressent, mais j'ai peur de ne pas être sélectionnée. Je sais qu'il y a beaucoup de critères, etc. Mais je pense que ça devrait aller, normalement.
Et du coup, toi qui vis Parcoursup, Zoé, en terminale, qu'est-ce que tu changerais à Parcoursup si tu pouvais?
Si je devais changer quelque chose à Parcoursup, peut-être que je changerais les dates qui nous limitent, parce qu'en fait... en ce moment, tous les élèves de terminale sont en train d'écrire leur lettre de motivation. Et je sais que moi, en tant qu'élève, ça peut vraiment me stresser parce que je sais qu'il y a une date limite à laquelle je dois les rendre, etc. Et je me dis que si on nous laissait plus de temps, peut-être, on aurait plus le temps de se concentrer sur les choses qui vraiment nous intéressent dans la formation pour laquelle on participe, voilà.
Okay. Je suis totalement d'accord. J'espère que tu as pris des notes, Williams. Merci beaucoup à vous deux. Et maintenant, comme je vous l'avais dit au début, on accueille un invité très spécial, un journaliste, Cédric Centime. Bienvenue à toi, Cédric. Bonjour. Et merci d'être venu aujourd'hui.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous-même? Je vous vois en pleine forme. Ça fait plaisir de voir des lycéens s'essayer à la radio, c'est bien.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous avons quelques questions à vous poser, excusez-moi. Êtes-vous d'accord?
Ah, totalement, si je ne serais pas venu.
Alors, depuis quand êtes-vous journaliste, monsieur Centime?
Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans depuis le 20 octobre 2006. Ouais, cette année, ça va faire, on va dire 20 ans.
Merci beaucoup pour cette date précise. Je laisse Malia consigner.
Faut être précis dans ce métier-là, c'est important.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste et quel est votre parcours?
Alors, pour la petite histoire, ça me fait toujours, c'est particulier pour moi d'être avec vous, puisque j'étais parmi les premières promotions à votre lycée. Quand le lycée a ouvert, le lycée Sonny Rupert, j'étais parmi les premiers et j'avais déjà envie d'être journaliste. C'est un métier qui me passionnait à l'époque. Sauf que j'avais pas d'excellentes notes en fait. Et du coup, on n'avait pas Parcoursup, mais on avait quand même des conseillers d'orientation, on avait des proviseurs qui avaient un regard précis sur ce qu'on faisait. Et en gros, on m'avait expliqué que je pouvais pas être journaliste. Je pourrais pas être journaliste. Donc du coup, la parole de l'aîné, l'autorité, j'ai écouté, donc je me suis orienté vers autre chose. Donc j'ai fait une fac de philo. Entre temps, je voulais jouer au foot aussi, donc j'étais dans un club semi-pro et du coup je faisais les études en même temps. Et quand je suis arrivé jusqu'à la maîtrise en philo, je me suis dit non, c'est bon, je vais pas être prof de philo, voilà. Et donc je suis revenu à mes vieilles amours et donc voilà, j'ai tenté une école de journalisme, ça a fonctionné, et puis je suis rentré à la radio.
D'accord.
Et tu as toujours eu envie de faire vous avez toujours eu envie de faire journaliste?
Oui, mais comme j'expliquais, en fait, à la base, à votre âge, je voulais. Mais en fait, c'est quelque chose que vous connaissez. Il y a des fois, vous dites que c'est pas accessible, les notes ne vont pas, j'étais pas parmi les plus brillants, il y avait meilleur que moi. Donc, du coup, il y avait aussi le manque de confiance que je pouvais avoir. Donc, du coup, quand on m'a dit, mais non, avec des notes, une moyenne comme ça, tu pourras pas. Donc, j'ai cru. Sauf que c'était pas la vérité. La vérité, c'est que s'il y a que le travail qui t'amène, et avec le travail.
Il faut croire en soi.
Oui. Et avec le travail, il n'y a pas de limite en fait.
D'accord. Prochaine question. Quel est précisément votre rôle au sein de RCI, monsieur ?
Alors, mon rôle au sein de RCI, il faut savoir que RCI, on fait beaucoup de choses. Quand on est journaliste, à la base, on doit tout faire. À RCI, on est polyvalent. Moi, je suis ce qu'on appelle un chef d'édition depuis 5 ans maintenant. Alors, le chef d'édition, c'est lui qui contrôle les sujets qui vont être diffusés. C'est lui qui s'impose sa responsabilité. Donc, moi, en fait, je suis dans l'équipe de matinale. Ça veut dire que je commence tous les matins à 4h du matin, donc réveillé à 3h.
Oui, c'est ça.
Et voilà, la matinale, du coup, c'est pour ça que le matin, on est frais et dispo.
La matinale.
Exactement. Donc, j'arrive à 4h, j'ai deux collègues avec moi. C'est moi qui dois choisir l'ordre des sujets. C'est important, l'ordre des sujets qui vont être diffusés. On a plusieurs journaux, je dis quel sujet passe à telle heure et patati. Et en plus de cela, je présente, j'ai une interview à 6h10 tous les matins qui s'appelle Parlons Vrai. Et j'ai également une libre antenne. Qu'en pensez-vous ? Je donne la parole aux auditeurs sur une question que je trouve tous les jours, une question d'actualité. Le but, c'est de faire réagir les gens, ils nous appellent. Et voilà, et à part ça, je fais ce qu'on appelle des relances dans tous les journaux. Voilà, en gros, mon rôle dans l'équipe RCI, dans la rédaction.
Eh bien, figurez-vous que vous avez répondu un peu à ma question. Comment s'organise votre travail au sein de l'équipe ? Donc, je vais laisser poser vos Maria avec la prochaine question.
Combien de temps vous consacrez personnellement et avec ton équipe à la préparation de chaque émission ?
Alors, c'est assez particulier parce qu'en fait, quand on est journaliste, on n'est malheureusement pas journaliste de 3h à 11h. C'est-à-dire que si à 11h40, il y a un accident, s'il y a une info, tu es en veille constante. C'est-à-dire que de là à dire combien de temps on prépare, on ne peut pas répondre exactement à cette question parce que le cerveau, il fonctionne tout le temps. Ce que je sais, c'est qu'avec les années, ça devient plus facile, puisqu'à force de faire, il y a des automatismes qui rendent les choses plus simples. Donc moi, on va dire que je suis pleinement concentré, je suis du matin, donc dès que j'arrive le matin, ça fuse mieux. Mais honnêtement, dès le soir, on commence à avoir un petit regard sur ce qu'il peut y avoir, on regarde vite fait les infos. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment... Mais si, dans la pratique même, on a une heure pour tout préparer, entre 4h et 5h, et 5h, c'est parti, en voiture.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Centime. Enfin, dernière question, bien que je pense que je vous l'ai déjà la réponse, mais aimez-vous votre métier et quels sont, d'après vous, les principaux défis que vous relevez ?
Est-ce que j'aime mon métier ? Forcément, parce qu'on ne fait pas ce métier-là pour devenir riche, on ne le fait pas, c'est la passion. Si t'es pas passionné, tu n'es pas journaliste, tu te réveilles pas à 3h du matin, tu travailles pas le week-end, tu fais pas ces choses-là. Donc il y a que la passion qui peut te permettre de faire ça, et en fait tu ne compteras pas tes heures et c'est ce qui te permettra d'évoluer.
Mais on peut pas se lever à 3h du matin.
Ah oui, bien sûr, il y a des collègues qui arrivent à 9h, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en radio, le prime time, c'est le matin.
Le matin.
7h du matin, c'est le journal le plus écouté des Antilles. On a le matin à 7h, on a en gros 80 000 personnes qui nous écoutent. C'est le prime time, le soir à la télé c'est le 20h, le matin c'est là. C'est en matinale qu'on apprend. Tous les journalistes de radio vous diront, tant que t'as pas fait de matinale, t'as pas fait de radio. Parce qu'en fait, en matinale, tu es livré à toi-même. Les gens, ça va très très vite et tu n'as pas le droit à l'erreur. Les infos tombent, tu dois être réactif et y a une pression que tu n'as pas le reste de la journée. Donc oui, j'ai des collègues qui arrivent, qui commencent à 9h, mais c'est pas la même chose du tout, ça n'a rien à voir. Donc les défis, ils sont nombreux dans ce métier-là. Il faut de la précision, il y a l'avènement des réseaux sociaux qui fait qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux, de très bonnes infos, mais il y a aussi de fausses infos. Donc nous, la difficulté, c'est toujours de justifier. C'est-à-dire, c'est ça la différence. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire qu'on est plus efficace, mais le risque des réseaux sociaux, c'est qu'on vous balance quelque chose qui paraît vrai tout de suite. Pas tout le temps faux. Je vais pas mentir. Nous aussi, on défend, on tire nos infos des réseaux. Mais la difficulté, c'est de vérifier les informations. Et le matin, c'est plus difficile quand il est 3h40, tu apprends qu'il y a quelque chose qui sort. Bah, écoute, c'est très compliqué parce que tout le monde dort. Parce que, voilà. Donc, c'est exister alors que les gens écoutent de moins en moins la radio. C'est continuer à être bon dans ce qu'on fait. Il y a la concurrence aussi. Donc, il y a beaucoup de défis.
D'accord. Merci beaucoup.
Vous auriez, excusez-moi, des conseils peut-être pour nous, pour un jeune qui nous écoute, qui souhaiterait devenir journaliste.
Alors, les conseils, si vous voulez faire ce métier, allez-y. Allez-y, le premier conseil, faut pas... Bon, je vais parler que de mon histoire, faut pas écouter ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que on ne naît pas brillant. Avec le travail, on gomme, on fait des erreurs, on apprend, on fait pas l'erreur la deuxième fois. Si vous voulez être journaliste, faut être curieux. Curieux, chez nous, c'est un défaut, mais il faut être curieux de tout. C'est vrai. Pourquoi il faut être curieux de tout? Parce que la curiosité va vous amener à avoir une culture générale, une culture vaste sur beaucoup de sujets. Quand vous allez dans une école de journalisme, moi c'est ce que j'ai fait, la première chose qu'on vous met, c'est on vous met un QCM, on vous met peut-être, ça dépend de l'école, moi j'ai eu 500 questions sur tout. Et j'étais pas brillant comme élève. J'étais pas brillant, j'étais, allez, je vais dire un bon élève. Bon, comme j'aimais le foot, j'étais plutôt sur mon football. J'étais bon élève quand même. Mais en fait, sans le savoir, je m'intéressais à beaucoup de choses. Et il y a des questions que vous trouvez dans le cul, ça peut être tout. C'est-à-dire qu'il faut pas être brillant là, mauvais là, non. Il faut avoir un niveau médian dans tout ce qu'on fait. Voilà, s'intéresser aux choses, regarder, poser des, n'hésitez pas à poser des questions. Alors c'est vrai que quand on a votre âge, on peut être timide et tout, on peut avoir des difficultés, on peut se dire non. Quand vous n'avez pas compris quelque chose en cours, demandez une fois. On n'avait pas compris, vous redemandez une deuxième fois. Je vous assure, primo, il y a plein de camarades qui n'ont pas compris comme vous, qui ont juste pas eu le courage de faire ce que vous faites. La curiosité, demandez, et vous verrez que ça va vous ouvrir des horizons. Et j'oublierai jamais, j'étais pas terrible du tout en histoire, et je tombe sur une question, un truc que j'avais vu, j'étais au collège et c'était l'URSS de l'époque, et je me dis mais ça c'est ça. Et honnêtement, le fait d'avoir un minimum de connaissances, ça m'a aidé à répondre à cette question. C'est vraiment ça, curiosité. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est ouvert à tout. C'est quelqu'un qui n'a pas des idées forcément arrêtées, qui est ouvert à toutes sortes de choses. Il va regarder le micro, il va regarder à côté, il va regarder derrière. Il y a toute vérité à plusieurs facettes. Donc c'est le conseil que je vous donnerais. C'est un métier qui est magnifique. C'est un super métier, honnêtement. Et comme je vous dis, avec ce métier-là, vous rencontrerez des gens que vous n'imaginez pas, vous ferez de belles rencontres. Et puis, il y a quelque chose, pour terminer, qui est magnifique, c'est que... Vous savez, si les réseaux sociaux, ça a autant d'impact, c'est parce que les gens... ont envie qu'on parle d'eux. Les gens ont envie de se montrer. On fait des selfies, on fait des réels, on fait des choses comme ça. Eh bien, c'est un métier où votre voix va porter, où on va vous écouter. D'accord. Voilà.
Et une dernière question, personnellement, pour savoir. Mais comment... est-ce que ça a été difficile d'être passé à quelqu'un qu'on a dit qu'il ne serait jamais journaliste, à quelqu'un qui devient journaliste, du coup? C'était difficile ou pas?
Le plus difficile, ça a été 26 ans, tu te dis, mais j'ai perdu du temps, en fait. Mais j'ai envie de dire, honnêtement, s'il fallait refaire, j'aurais fait pareil. La personne qui m'a dit ça, je ne lui en veux pas, parce que en fait, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai connu ces difficultés-là. C'est parce que j'ai fait d'autres choses, j'ai vu d'autres, j'ai échoué dans d'autres sujets. Donc la difficulté, sur le coup, à 26 ans, c'est de me dire, oh, mais mon Dieu, mais à 26 ans, j'ai perdu du temps. Il faut que... Alors là où j'avais des gens, je suis arrivé dans une école, j'étais le plus âgé, parce que ceux qui étaient là, ils avaient le bac. Ils avaient le bac, ils avaient 5 ans de moins que moi. Mais le bon côté, c'est qu'avec les équivalences, j'ai évité 4 années payantes, je suis rentré en dernière année. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça a été compliqué, mais...
Un mal pour un bien.
Un mal pour un bien. Mais s'il y a vraiment un message pour vous les jeunes, c'est que ça va vous paraître bizarre, mais rassurez-vous, je suis convaincu de ce que je dis. Si vous avez 3 choix... Vous avez la facilité, vous avez le choix moyennement difficile, et vous savez le choix le plus difficile, prenez toujours le choix le plus difficile. Ne prenez pas la facilité. Avec le choix le plus difficile, vous allez progresser à une vitesse que ça va être compliqué, mais vous allez progresser à une vitesse folle et vous allez gagner en compétences. Le choix facile ne vous amènera pas grand-chose. Moi, je suis convaincu de ça, et c'est pour ça que quand tu me dis ça a été difficile, oui, humainement difficile, mais derrière très enrichissant finalement. Il faut apprendre à tomber, il faut rater, il faut louper, et se relever.
D'accord, ben merci beaucoup, monsieur Saint-Yves, pour ces questions.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup, en effet, à vous. C'était extrêmement intéressant, n'est-ce pas, Dilliam?
Oui.
Dilliam. Mais à présent, nous allons accueillir Eliana pour son billet d'humeur, la dernière partie de notre émission. On l'écoute.
Alors, bien bonjour tout le monde. Qui j'en azote, tant qu'espérer, j'ai aimé cette émission, nous. En commencement, nous tendons au micro-trottoir assis l'orientation à élèves. Après, nous tenons mon chanlo et mon grandisson, qui ouvrent en nous à ses fonctionnements à l'ISAIO, parce que des jeunes qui passent à dans qui modèle lycée, yo voulez aller, et pour permettre yo faire un bon choix d'orientation. Nous tendons anciens élèves à l'ISAIO là qui ban nous des mots de quatre paroles à si vie à l'étudiant yo. Nous tenons un récapitulatif à tout ça qui fait en lycée Sonny Rupert. Nous faisons belle la ritournelle à ce voyage à l'atelier Sciences Po à Sonny Rupert qui aille Marie Galante. Mais ces centimes qui font nous, qui fait nous, on belle si partie à si métier aille qui ouvrez-y en nous à si ça nous peut faire. Et Sonny Vibes, Cadizot, Adon d'autres soleil pour une plus belle émission encore. Et pas oublier, choisis sa œuvre les faits. Qu'il en soit, ça mon cas d'isot, pour zopé, épanouisot, à dans vie azot. Bien, merci.
Merci beaucoup, Eliana, pour ta dernière intervention. Qu'en as-tu pensé, Dilliams?
Franchement, là, ben, avec toutes ces personnes, tous ces témoignages, j'aime pas être, être plus cultivé qu'autre chose.
L'émission était pas fabuleuse.
Franchement, rien à dire.
Mais malheureusement, chers auditeurs, nous touchons à la fin de l'émission. Et nous avons énormément apprécié passer ce moment avec vous et j'espère que cela est réciproque. Et en effet, un grand merci à Dilliam, excusez-moi, qui a présenté l'émission avec moi, mais aussi à Monsieur Cédric Centime, Madame Grandisson, Eliana, Alizé, Angela, Miliani, Zoé, Caroline et Matteo. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets essentiels qui, j'espère, vous auront apporté beaucoup.
Et bien sûr, un grand merci à toi aussi, Malia, pour avoir présenté l'émission avec moi, ainsi que la Cité éducative de Sainte-Rose qui finance ce projet à Radio Sofaya qui nous accompagne. Merci à vous tous et on a oublié quelqu'un. Maïssa, merci à toi aussi, Maïssa.
On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.
Au revoir.